Semaine missionnaire mondiale du 15 au 22 octobre. Dans le cadre de la Semaine missionnaire mondiale, nous vous proposons d'entendre des témoignages missionnaires enregistrés en l'église d'Arkang lors d'une soirée proposée par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia. C'était le 25 août 2023. Vous entendrez successivement le témoignage de l'abbé Rike Ito Telus, qui nous parlera des Caraïbes, l'abbé Rike Ito Telus, qui est le curé de la paroisse Saint-Joseph des Falaises, Bidar Guétari à Kotz. Vous entendrez ensuite le témoignage de l'abbé Gaston Aitonji du Bénin, puis le témoignage de Florence Bickert, qui évoquera l'église en Chine, et enfin le témoignage de l'abbé Janvier Oona sur l'église du Cameroun. Parole d'ailleurs, dans le cadre de la Semaine missionnaire mondiale, des témoignages recueillis en l'église d'Arkang le 25 août 2023. Et nous commençons tout de suite avec le témoignage de l'abbé Rike Ito Telus.
Bonsoir à tous. J'ai été démocratiquement choisi pour commencer la soirée. Je suis l'abbé Rike Ito Telus, comme l'abbé Landard vient de le dire. Et je suis d'Haïti. Je suis actuellement curé à Bidar, Guétari et à Kotz, paroisse Saint-Joseph des Falaises. Je vais vous parler un peu de l'église d'Haïti, qui n'est pas représentative de l'église des Caraïbes, mais en quelque sorte, comme c'est dans les Caraïbes, qui est une réalité de l'église des Caraïbes. Alors, Haïti, vous savez où ça se situe, non? À peu près. Alors, c'est entre Jamaïque et Cuba. Il faut savoir déjà où Cuba et Jamaïque sont. Donc, Haïti, c'est une petite île, une presqu'île, pouvons-nous dire, parce que l'île est partagée entre deux pays, la République dominicaine et Haïti. Haïti, c'est la partie ouest, la partie occidentale de l'île, et la République dominicaine, c'est la partie orientale. Donc, deux populations sur une île qui est séparée par une frontière, qui est une frontière terrestre, donc, puis qui a été tracée il y a quelques siècles. Alors, quelle est la réalité de l'Église en Haïti? La première chose, c'est que Haïti a un rapport avec l'Église institution, a une relation avec l'Église institution depuis 1806. Haïti est indépendant en 1804. Depuis 1806, et puisque le Vatican était un des États qui a reconnu l'indépendance d'Haïti très tôt. Et l'Église et beaucoup de missionnaires donc sont arrivés en Haïti, qui ont construit, qui ont évangélisé Haïti, qui ont construit l'Église d'Haïti, beaucoup de missionnaires français et belges, beaucoup. Cette Église a grandi avec ses réalités, ses difficultés, et aussi beaucoup de joie, beaucoup de réussite, et dont voilà une vocation, des vocations aussi qui se sont nées, qui sont nées dans ce contexte et qui ont donné un clergé local aussi à partir du 20e siècle, donc 1905, déjà il commençait à y avoir un clergé local. Haïti a 10 diocèses. Donc sur l'île, il y a 10 diocèses, dont le diocèse le plus récent, je pense, a été fondé en 2005, le plus récent diocèse, pour une population de 10 000 habitants, ça fait très peu, pour une population de 10 millions d'habitants, et un pourcentage de catholiques qui est de l'ordre de 40%. Il y a quand même beaucoup de catholiques et de chrétiens qui est de l'ordre de 60%, puisqu'il y a aussi une présence protestante qui est très forte aussi. Et une religion qui est reconnue comme religion depuis 2001, qui est le vaudou. C'est une réalité aussi dont on va parler. Voilà un peu en gros, si nous pouvons dire, une photo, en fait, une image de ce qu'est Haïti en termes de religion, en termes de diocèse et surtout pour l'Église catholique, ce que représente l'Église catholique en Haïti comme en image. Et maintenant, venons à la réalité de la pratique de la foi. Je partirai d'une expérience, je dirais plutôt personnelle, qui est celle de ma famille. Alors, j'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante. Mon grand-père était sacristain à l'église de ma paroisse. Mes parents sont très impliqués dans la paroisse. Et cela, un peu la situation, en fait, cette pratique, cet attachement à la paroisse est la situation de beaucoup de familles en Haïti. Parce que la paroisse, l'église, est, je dirais, le centre, en tout cas une référence, un point d'appui pour toutes les familles. Donc, on peut dire toute la vie des communes, des villages, et même des grandes villes tourne autour de la paroisse. La paroisse, à la fois comme institution, donc les prêtres, mais aussi à travers toutes les activités que peuvent proposer les paroisses en Haïti. Donc, mon expérience personnelle, c'est que moi, j'ai grandi dans cette ambiance-là, en faisant partie des différents mouvements qui composent les paroisses en Haïti, et dont un mouvement que je trouve, en fait, qui est très peu présent en France et en Europe en général, c'est l'enfance missionnaire. Moi, je peux dire que ma vocation, en tout cas, ma foi comme enfant se nourrit avec ce mouvement. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est l'enfance missionnaire. Alors, c'est un mouvement qui entend évangéliser les enfants, comme on fait le catéchisme, mais c'est en dehors du catéchisme, mais que les enfants puissent devenir vraiment plus tard des évangélisateurs. Recevoir la parole de Dieu à travers, bien sûr, des activités comme on fait au catéchisme, mais dans un but beaucoup plus missionnaire que ce que l'on fait au catéchisme. Ce n'est pas tant la formation pour devenir chrétien, mais c'est une formation pour devenir missionnaire. Comment nous-mêmes, enfants, déjà comme enfants, nous pouvons nous aussi évangéliser, en tout cas être témoins de la foi, être témoins pour nos amis, ceux que nous rencontrons à l'école ou ailleurs. Et ça, cette réalité-là m'a fait grandir, cette réalité, ce mouvement m'a aidé aussi moi-même plus tard à trouver ma vocation, à devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, j'ai commencé en parlant de l'enfance missionnaire parce que c'est un mouvement qui est très présent en Haïti et que je pense est être la base de toutes les paroisses en Haïti, de la vie chrétienne en Haïti. C'est étonnant de voir comment un mouvement d'enfants puisse être la base. Ben, c'est parce que l'éducation dans la foi, cette formation à la mission, à l'évangélisation, ben, donne beaucoup de fruits dans nos paroisses, dans les diocèses en Haïti. Et je voudrais aussi, pour parler de l'Église d'Haïti, parler de ce que représente, si vous voulez, l'Église comme institution dans la vie sociale et politique en Haïti. Alors, je ne vais pas faire forcément de la politique, mais tout simplement pour dire comment Haïti, c'est un pays qui a traversé beaucoup de crises depuis des années. Mais la voix de l'Église a été toujours une voix prépondérante, en tout cas, qui propose des solutions pour aider les Haïtiens à se réconcilier, à se concilier, à se parler entre eux, surtout de la classe politique. Et je pense que cette voie, en tout cas cette voie morale que représentait l'Église catholique en Haïti, commence aujourd'hui à se perdre. Il y a bien sûr plusieurs raisons, on ne va pas faire d'analyse des raisons pour lesquelles il y a quand même maintenant une importance moindre de la voix de l'Église dans les questions de crise en Haïti, mais il se trouve que aujourd'hui, l'Église n'a plus cette capacité de réunir les populations, de réunir les Haïtiens pour parler et avancer. Alors, cela, en fait, je souligne ce point pour dire comment moi, j'ai grandi dans une Église qui était en quelque sorte un signe d'espérance, qui était en quelque sorte un espoir, qui était en quelque sorte aussi une force pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pas parce que l'Église s'est affaiblie, mais tout simplement parce que aussi, comme en Europe, la laïcisation, je ne veux pas parler mal de la laïcisation, mais en tout cas, ce phénomène aussi commence à envahir aussi Haïti, la société. Maintenant, il y a d'autres voix qui sont beaucoup plus importantes et qui sont beaucoup plus écoutées maintenant en Haïti. En 10 ans, oui. Voilà. Ça, c'est vraiment effondré en 10 ans. Oui, il y a beaucoup de vocations en Haïti et qui sont nées dans ces mouvements-là, surtout dans l'enfance missionnaire et dans la jeunesse missionnaire, enfance missionnaire. Et déjà, dans ma paroisse, on est au moins 5, moi, de ma génération qui ont été dans l'enfance missionnaire et qui sont entrés au séminaire et qui sont devenus prêtres. Voilà, nous sommes 5 à être prêtres, au moins de ceux avec qui j'ai fait en fait l'enfance missionnaire. Et il y a beaucoup de vocations en Haïti. Les diocèses sont plutôt en fait très dynamiques parce qu'il y a beaucoup de nouvelles paroisses qui se créent puisqu'il y a quand même pas mal de prêtres. Et c'est une église, on peut dire, qui est encore naissante en fait, naissante dans le sens où il n'y a pas de paroisse partout, comme ici en France, et chaque village est une paroisse. Et il y a beaucoup ce qu'on appelle les chapelles. Les chapelles en Haïti, ça ne correspond pas à un édifice, en fait, une petite église, entre guillemets, mais c'est des communautés où il n'y a pas de prêtre présent, où il y a un centre paroissial que ces gens peuvent rejoindre une fois par mois, le centre paroissial, mais il y a ce qu'on appelle un sacristain qui fait une célébration de la parole tous les dimanches pour ces communautés-là. Donc, il n'y a pas de communion, bien sûr, et ils viennent une fois par mois pour recevoir la communion dans le centre paroissial. Oui, comme toute la population d'ailleurs, mais c'est vrai, il y a ce phénomène qui est actuel en Haïti, de beaucoup d'enlèvements. Et il y a un an, et ça c'était peut-être le cas le plus éclatant qui a touché l'Église catholique, un groupe de prêtres où il y avait des missionnaires, c'était des pères de Saint-Jacques, d'ailleurs qui est une communauté française qui s'est établie en Haïti, dont un qui était au séminaire avec moi, et un groupe de 5 prêtres qui ont été enlevés et pour qui les ravisseurs ont demandé des rançons. Mais ça, c'est quelque chose qui depuis 2 ans en Haïti, est le pain quotidien de la population. Mais l'Église est particulièrement menacée parce qu'on sait que si on enlève un homme d'Église, un prêtre ou un religieux ou une religieuse, la rançon va être payée parce que il y a toute une communauté derrière. Et donc, ça fait quand même que les prêtres dans certaines villes sont un peu menacés dans leur mission, les religieux et les religieuses. Ça, c'est aussi une difficulté pour les prêtres aujourd'hui en Haïti. Oui, on chante pendant la liturgie, on chante beaucoup. Et on chante en créole, dans la plupart des cas en créole, mais aussi en français. Il y a quand même une... Et ça, c'est peut-être la différence aussi entre les catholiques et les protestants. Parce que chez les protestants, il y a beaucoup... Les protestants sont beaucoup investis dans le créole. Ils se sont appropriés beaucoup de chants. Les protestants sont en créole et dans leurs célébrations. Dans l'Église catholique, il y a quand même un vrai mélange entre des chants créoles et des chants français. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des chants créoles. Oui, on chante et on chante beaucoup avec un rythme, avec des rythmes aussi des rythmes locaux. Quand je suis arrivé à Rome comme séminariste, pour vous dire, c'était la première fois au séminaire, je me rappelle la première messe que j'ai eue avec seulement l'orgue. J'étais jamais habitué à avoir une messe avec de l'orgue. Parce qu'en Haïti, les instruments pour la messe, c'est le tambour, batterie, guitare et piano, donc un clavier en quelque sorte. Donc la messe avec l'orgue, pour moi, c'était, voilà, c'était quelque chose, voilà, que j'ai découvert en fait en arrivant à Rome. Et par contre, juste aussi pour parler de ce changement de génération, par contre, mon grand-père, qui était sacristain et qui était avant organiste à l'église, puisque après le concile, donc il n'y avait plus d'orgue à l'église, et lui, par contre, il souffrait de cela. Parce que moi, moi j'ai grandi avec ça, et lui, qui après le concile, donc il n'avait plus, voilà. Alors qu'il était organiste, il a même écrit des chants, composer des chants pour, voilà, pour la liturgie, et qui se chantaient, qui jouaient dans ma paroisse. Et puis voilà, après le concile, il n'avait plus son instrument pour animer la prière.
Après le témoignage du curé de la paroisse Saint-Joseph des Falaises Bidarguétari à Kotze, l'abbé Ito Tellus, témoignage sur les Caraïbes, voici à présent le témoignage de l'abbé Gaston Aitonji qui nous parle de l'église au Bénin.
Alors je remercie le Père pour l'initiative qui permet d'éclater un peu l'horizon, parce que la tentation est souvent grande de ne contempler que son propre nombril. Et comme Église, s'ouvrir à l'universalité, c'est aussi une mission, non seulement de synodalité, mais aussi de catholicité. Mon frère a parlé d'Haïti, et je crois que Haïti, c'est la fille du Bénin, puisque l'origine du vaudou, c'est le Bénin. Oui, c'est ça. C'est les esclaves d'hier qui ont transporté cette pratique religieuse qui est propre du Bénin et de la sous-région en Haïti. Alors, je voudrais simplement prolonger ce qu'il a commencé en disant que aujourd'hui, ce que moi je retiens comme étant le secret, si vous voulez, ainsi, de la vivacité de l'Église en Afrique, c'est sa structuration. La communauté paroissiale est structurée pour offrir à toutes les couches une réponse à une attente. Donc, déjà de l'enfance, à partir de 3 ans, les enfants militent déjà dans des groupes. Ça peut surprendre. Mais le groupe qui accueille les enfants à partir de 3 ans s'appelle Groupement des enfants chéris, de maman chérie. Et ça apprend les petites prières, ça chante, ça joue, ça danse, en présence ou non des parents. Et puis bon, de là, on passe à un autre groupe, et puis ça se diversifie au fur et à mesure. Et entre autres groupes, il y a aussi ce qu'on appelle dans toutes les paroisses le groupe des vocations. Donc, un enfant qui commence dès le bas âge à penser à devenir prêtre, voilà, moi je veux devenir prêtre, moi je veux devenir religieuse, on lui dit, milite dans le groupe. Et voilà, il y a les congrégations religieuses qui envoient des délégations, ainsi de suite, qui présentent leur charisme, et de temps en temps, il y en a qui s'y retrouvent. Moi, c'est précisément ce que j'aurais voulu. On commence le groupe de vocation peut-être à 50, mais c'est peut-être 2 ou 3 qui rentrent dans la maison de formation, ou 5 qui rentrent dans la maison de formation, et peut-être 1 devient prêtre. Mais de toute façon, la chose est, il y a l'opportunité, un creuset disponible dès l'enfance qui aide. Donc, il y a les groupes d'enfants, les groupes de mouvements, ou groupes d'adolescents et de jeunes, d'adultes. La pastorale aussi est structurée, la catéchèse aussi est structurée de cette façon. Quand j'étais curé de paroisse, la pastorale paroissiale catéchétique, il y a ce qu'on appelle le pré-catéchuménat. Donc c'est les enfants un peu, bon, qu'on initie aux petites prières usuelles, ils s'amusent, ils font des dessins, ainsi de suite. Mais il y a aussi le catéchuménat ordinaire. La pastorale des universitaires, des gens qui travaillent, et ainsi de suite, qui n'ont pas le temps d'être là, bon. Mais il y a aussi la pastorale des personnes âgées. Et dans la pastorale des personnes âgées, il y a ce qu'on appelle la CEPAM, la catéchèse des personnes âgées et ou malades. Donc, il y a un groupe de catéchistes qui va les visiter dans les maisons, parce que, bon, c'est des gens qui sont malades et qui ne peuvent pas bouger. On va les visiter, on prie avec eux, on les accompagne pour les sacrements, parce que bon, en Europe, généralement, les sacrements, c'est, il y a un âge déterminé, et puis après, bon, chez nous, c'est à tous les âges. Une personne de 80 ans peut être au catéchisme, donc c'est pas si stratifié comme cela l'est ici. Et puis, il y a aussi la pastorale des personnes âgées. Elles se réunissent et prient. Elles se réunissent et dansent, chantent. Et quand on parle de danse et de chant, c'est très diversifié. Quand j'étais curé de paroisse, j'avais 8 chorales dans ma paroisse. Donc, le lundi, il y a une autre chorale, le mardi une autre, le mercredi une autre, le jeudi, le vendredi, le samedi matin une autre chorale, le samedi soir une autre chorale, le dimanche, c'est diversifié. Oui, ça peut surprendre parce que justement, il y a une certaine promotion des valeurs culturelles de chaque ethnie. Donc, il y a la chorale qui promeut telle ethnie, telle autre ethnie, mais bon, quand on arrive en paroisse, même quand ils chantent dans leur dialecte, dans leur langue propre, de toute façon, l'unanimité se fait autour. Voilà, donc c'est très varié, très cosmopolite, et personnellement, ça, je me retrouve beaucoup. Je trouve que c'est vraiment varié. Et quand vous allez à la messe le lundi, ce n'est pas comme la messe le mardi. Voilà, parce que quand c'est le Yoruba qui chante, on répond de cette façon, on bouge à la messe de telle autre façon, mais quand c'est une autre chorale, le rythme change et le mouvement aussi chante. Voilà, donc je trouve que c'est assez diversifié par rapport à ça. Mais comme recteur de séminaire, peut-être c'est la pastorale des vocations. Nous rendons grâce au Seigneur, beaucoup de vocations pour le moment dans notre pays. C'est d'ailleurs pour ça que le grand séminaire de philosophie a été dédoublé et je me suis retrouvé recteur d'un nouveau grand séminaire. Mais là aussi, je pense que c'est une affaire de structuration de la pastorale. Parce que depuis les paroisses, les groupes de vocation qui sont accompagnés, pas d'abord par les prêtres, mais c'est des familles volontaires qui s'occupent de ces jeunes gens qui voudraient devenir prêtres, qui les réunissent et qui leur parlent aussi bien de l'importance de la vie matrimoniale que de la vie consacrée comme étant une vocation, mais chacun doit puiser dans son cœur, dans ses ressources et voir vers quoi il est orienté. Et ces parents qui s'occupent des groupes de vocation le font de façon continue, pendant que bon, le prêtre, lui, il intervient de temps en temps, ou un séminariste, un stage, un grand séminariste, un diacre, ainsi de suite. Et puis au niveau du doyenné, il y a un prêtre chargé de la pastorale des vocations, un prêtre, une religieuse et un laïc. Donc, il y a une petite commission au niveau des canals chargée des vocations qui réunit les aspirants et aspirantes, on les appelle, de temps en temps, pendant les temps forts, pour des recollections, pour des exposés, et ainsi de suite. Et puis, au niveau du diocèse, il y a la commission diocésaine des vocations, formé généralement du vicaire général, de l'aumônier diocésain des vocations, de quelques prêtres qui interviennent dans les séminaires, de parents, donc c'est assez structuré. Et à ce niveau, bon, on accueille encore, on accompagne, et puis bon, on présente aux tests et aux différentes congrégations religieuses, ainsi de suite, suivant les orientations et les désirs de chacun. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Les vocations, ce n'est pas de la génération spontanée. Donc, ici aussi, je pense que ce qui arrive en Europe par rapport aux vocations, je prie le Seigneur pour que la tendance s'inverse. Je disais avec quelqu'un que c'est la phase d'hiver en matière de vocation, mais l'été reviendra avec la grâce de Dieu. Mais il faut aussi qu'il y ait une volonté pastorale pour la chose. Et par rapport à ça, s'il y a une petite conclusion que je tire, c'est que la foi n'est pas chromosomique. Elle s'inculque. Elle se communique. Mais aujourd'hui, la foi dans bien des pays, et même ça nous envahit de plus en plus, comme il l'a dit aussi, la foi commence à être ravalée, repoussée, plus ou moins violemment dans le domaine de la sphère du privé. Et donc, on ne doit pas en parler à l'enfant. Je trouve quand même que c'est quelque chose autour de la, duquel nous avons à réfléchir pour voir l'avenir que nous réservons non seulement à l'Église, mais à notre monde. Parce que notre relation au transcendant, notre relation à Dieu, notre relation aux valeurs, quand c'est accompagné aussi, ça peut produire un meilleur fruit. Voilà, je vous remercie.
Après le témoignage de l'abbé Gaston Antonji, qui nous parlait du Bénin, témoignage enregistré à Arkang le 25 août 2023, voici à présent le témoignage de Florence Bickert, qui nous parle de l'Église en Chine.
Bonsoir, pas facile de parler après deux prêtres. Donc ça va être d'une autre teneur. Alors moi j'ai habité Shanghai pendant 4 ans, de 2015 à 2019. J'ai suivi mon mari qui travaillait là-bas et je suis partie avec ma dernière fille qui avait 15 ans. Donc quand on est étranger, expatrié en Chine, en tant que Français à Shanghai, on avait la chance d'avoir un aumônier francophone qui était allemand, mais qui avait un visa qui lui permettait d'être présent auprès de la communauté francophone, de la communauté catholique francophone. On devait être peut-être 500 à Shanghai, dans la communauté française catholique. L'Église en Chine, c'est très compliqué, donc cet aumônier francophone avait pour mission de s'occuper uniquement des Français. Il n'avait absolument pas le droit d'intervenir auprès de Chinois. Les Chinois sont... Tout le monde est très contrôlé en Chine, les étrangers, les Chinois aussi, sauf que ça n'a pas la même portée pour nous, expatriés, que pour les Chinois. Le problème, je ne sais pas si vous connaissez bien les problèmes de l'Église en Chine sont extrêmement compliqués, sont des problèmes diplomatiques avec le Vatican. Les relations diplomatiques ont été supprimées en 1950 et depuis, c'est très très compliqué. Les discussions sont difficiles et le gouvernement chinois voudrait avoir il a obtenu une église sous sa coupe. Qui dépend entièrement du Parti communiste chinois. Donc ils ont créé des associations patriotiques catholiques qui gèrent l'Église en Chine. Ils nomment leurs évêques. Le Parti communiste nomme les évêques chinois et ne veut pas que le pape intervienne, en fait. Il ne faut pas que le Vatican intervienne. Donc ça pose quand même un gros problème. Le problème majeur, le problème politique, il vient du fait que le Vatican a des relations diplomatiques avec Taïwan et que la première chose que demande le gouvernement chinois, c'est de couper les ponts avec Taïwan. Donc, ce que le Vatican n'a pas fait, et je pense qu'ils ne le feront pas. Les catholiques en Chine représentent à peu près 12 millions de fidèles. Et parmi ces 12 millions, il y a une église clandestine et une église officielle. Et l'église clandestine est vraiment persécutée. Il y a beaucoup de prêtres et de fidèles en prison ou sous résidence surveillée. Les choses sont très compliquées. Quant à l'église officielle, à partir du moment où elle obéit, elle est soumise, elle n'a pas de problème. Donc c'est difficile quand on habite là-bas. Moi, j'ai un cousin germain qui est prêtre et qui était allé en Chine avant que nous y allions et qui nous avait dit « n'allez pas à la messe à l'église officielle parce que c'est pas la vraie église ». Et en arrivant dans les grandes villes, l'église officielle est quand même assez présente. Moi, j'ai jamais... L'église clandestine, elle est en langue chinoise. Donc, et puis on n'allait pas chercher les ennuis surtout, parce que dès qu'on sort des rails, on prend l'avion tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça compliqué. Nous allions à la messe la plupart du temps à la cathédrale de Shanghai, et donc c'était l'église officielle. Alors c'est la messe en anglais, donc c'était un prêtre shanghaïen qui parlait anglais. Et c'est vrai que, enfin, on ne voyait pas la différence. C'était des messes avec le même rite, avec tout était identique. Donc j'ai trouvé ça compliqué. Bon, on allait quand même à l'église, officielle, parce qu'on n'avait pas trop le choix. Quand on donne à la quête en Chine, 10% de la quête va au Parti communiste. Bon, c'est pas super. Voilà. Donc, pour le moment, les relations sont très compliquées depuis le pape Jean-Paul II, puis de Benoît XVI, ont vraiment tout fait pour réunifier l'Église chinoise, parce que c'est une grande, c'est terrible d'avoir une Église divisée comme ça. Et il n'est pas les tractations qui ont lieu. Le pape François a essayé aussi de faire avancer les choses en signant des accords il y a 6 ans, je crois. Ce sont des accords qui durent 2 ans. Et dans les accords, ils ont essayé de se mettre d'accord pour dire l'association patriotique chinoise propose des évêques et le Vatican confirme ou infirme. Bon, dans la pratique, l'association patriotique nomme les évêques et n'attend pas du tout que le Vatican confirme. Il y a 2 mois, ils ont nommé l'évêque de Shanghai. Le Vatican n'était pas au courant. Donc voilà. C'est compliqué. Enfin voilà, c'est très compliqué d'être catholique en Chine. Moi, en revanche, j'ai pas mal vécu à l'étranger avant, mais pas en Chine. Et j'ai trouvé que l'église en Chine est une église, pour être allée à quelques messes en chinois, dans des paroisses chinoises, c'est une église, enfin, ce sont des fidèles extrêmement courageux et très pieux, très très fervents, et ce sont souvent des convertis récents. En général, ils se coupent de leur famille quand ils se convertissent, parce que soit la famille ne comprend pas et ils ne veulent surtout pas prendre de risques pour leur vie, parce qu'en fait, vous avez peut-être entendu dire qu'en Chine, il y a un crédit social, donc les citoyens sont notés, ont une note qui est... Et on gagne des points ou on en perd en fonction des choses bien qu'on fait ou mal aux yeux de l'État. Donc avoir une religion, c'est très mauvais. Donc ça ferme des postes administratifs, donc il y a un certain nombre de métiers qui ne sont pas accessibles. Et ça complique les choses, et voilà. Donc c'est vraiment, sont vraiment des gens courageux, et le pouvoir politique a très peur les conversions sont nombreuses. Alors il y a pas mal d'évangéliques et de protestants aussi qui sont assez actifs, et ils ont un peu l'impression, enfin le pouvoir a un peu l'impression que ça leur échappe, et que voilà. Donc ils sont très très. Ils luttent contre toutes les religions et voilà. En tous les cas, prier, il faut vraiment qu'on prie pour l'Église de Chine. Benoît XVI, en 2007, je crois, avait écrit une très très belle prière pour l'Église de Chine. Et voilà, je crois que c'est tous les 24 mai chaque année. C'est la journée de prière pour l'Église de Chine. Et voilà, moi, il me semble que une partie de l'avenir de l'Église catholique viendra de là-bas, et voilà, que c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà.
Après le témoignage de Florence Bickert qui évoquait l'Église en Chine, voici le témoignage de l'abbé Janvier Ohona qui nous parle de l'Église au Cameroun, un témoignage enregistré à Arkang lors d'une soirée proposée par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia le 25 août 2023.
Je remercie mes prédécesseurs parce qu'ils ont tout dit. Les répétitions ne sont pas toujours bonnes parce que tout ce qu'ils ont dit, je me reconnais dedans. Mais avant cela, j'aimerais succinctement vous parler quand même aussi de mon pays, d'où je viens, le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui a été découvert par des explorateurs portugais. Vasco de Gama s'appelait son équipe et qui s'était arrêté sur les côtes du Cameroun et avait apprécié une rivière dans laquelle il y avait beaucoup de crevettes. il a appelé sur sa carte, il a appelé ce territoire Rio dos Camarões, qui signifie en portugais la rivière des crevettes. Et sur la carte, cela a attiré les autres puissances coloniales, notamment les Allemands, qui arrivent donc après et qui décident donc d'appeler cet endroit Cameroun avec K. Donc le premier colon du Cameroun, ce sont des Allemands. Et les premiers missionnaires à arriver pour évangéliser le Cameroun étaient des missionnaires allemands, des Palotins. Ils arrivent dans une des villes qui avait son nom, c'était dans le nom local, c'est Déa, un village de Déa. Mais ils ont baptisé ce village Marienberg, la colline de Marie. Donc après la guerre, les Allemands sont obligés de fuir et ils ont laissé quand même un grand héritage sur le plan de la foi, parce que même notre langue, nos langues maternelles qui sont un peu pauvres, empruntent beaucoup de mots dans le dictionnaire allemand, si je peux le dire ainsi. Tout simplement parce que c'était les Allemands les premiers à nous faire comprendre et connaître ces réalités de la foi. Après les Allemands, le Cameroun qui avait été placé sous mandat de l'ONU, sous protectorat de la SDN, et qui sera partagé après par les deux puissances coloniales, notamment les Français et les Anglais. Sur le plan de la foi, on n'a pas voulu sevrer brutalement les Camerounais, mais on a cherché un point de, comment je pourrais dire, de transition. Quel est le pays entre l'Angleterre et la France qui pouvait avoir des missionnaires, qui pouvait continuer ce que les missionnaires allemands avaient commencé? Et ce n'était donc que la France avec les missionnaires qui nous venaient du côté du protectorat de la zone concordataire française, d'Alsace et de la Lorraine, les Spiritains, qui ont poursuivi la mission. Donc, le Cameroun, après ce découpage d'après-guerre, se retrouvera avec 475 000 km² comme superficie. Et dans ces 475 000 km² se trouvent 10 régions. Dans ces 10 régions, 2 sont anglophones, elles sont petites, et les 8 autres sont francophones. Et les deux langues qu'on impose officiellement au Cameroun, c'est l'anglais et le français, obligatoirement pour tous les Camerounais, pour qu'on puisse avoir une unité nationale, même linguistique, sur le plan linguistique. Le Cameroun, on nous le faisait réciter à l'école primaire, c'est l'Afrique en miniature. Parce qu'au Cameroun, on retrouve la diversité phonique, culturelle, linguistique. C'est plus de 300 langues au Cameroun. C'est plus de 200 tribus. C'est une diversité climatique. Le nord n'a pas le même climat que le centre. Et le centre n'a pas le même climat que l'est ou l'ouest. Donc parfois, quand vous nous posez les questions ici, « Mon père, il fait chaud chez vous ?» Non, c'est pas le même climat. Ça dépend d'une région à une autre. Donc le Cameroun se situe un peu au-dessus de l'équateur. Et nous avons l'un des chefs d'État les plus anciens de la planète Terre. Donc on l'appelle tout simplement chez nous la force de l'expérience. Même s'il a plus de près de 50 ans bientôt au pouvoir, on l'appelle tout simplement la force de l'expérience. Et lui, c'est un produit pur de l'Église catholique. Fils de catéchiste, lui-même ancien séminariste qui a failli être prêtre. Et après sa formation au petit séminaire, il a poursuivi ses études au lycée général Leclerc, puis ici en France, à l'école des hautes études politiques. Et ça fait en sorte que la majeure partie de l'élite camerounaise, ce ne sont que soit des anciens séminaristes ou des gens qui sont passés par des collèges catholiques. Donc l'Église catholique, vous comprenez par là qu'elle a aussi une audience assez importante au sein de la société camerounaise. Mais on essaie toujours d'éviter qu'on nous traite de complices avec le pouvoir en place. Le Cameroun, sur le plan religieux, Le Cameroun, les chrétiens, c'est presque 80% de la population. Les chrétiens, dont je les mélange tous, qu'on soit catholique, protestant ou nouveau mouvement religieux, tous ceux qui se revendiquent du Christ, c'est 80% de la population. Ceux du septentrion un peu, il y a 7 des chrétiens là-bas aussi, mais une forte présence de nos frères musulmans. Et dans les familles, il y a une bonne cohabitation entre des frères, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient musulmans. Mais cela varie quand même. Il y a des cas aussi où il y a des tensions dans les familles à cause des religions. Si vous ne vous entendez pas dans la famille, ceux qui sont protestants et ceux qui sont catholiques, il y aura aussi des guerres de religion au sein des familles, sans compter les musulmans. Mais quand une famille s'entend aussi, il y a aussi une cohabitation pacifique de toutes ces religions et de tous ces mouvements, de ces nouveaux mouvements religieux. Le Cameroun compte 26 diocèses, 5 provinces ecclésiastiques, la plus grande étant celle de Yaoundé, à laquelle mon diocèse fait partie. Et mon diocèse est un des diocèses suffragants de la capitale. Il compte aujourd'hui presque 62 ans de fondation. C'est le pape Paul VI qui l'avait fondé. Et le tout premier évêque fondateur que le pape Paul VI avait envoyé, c'est Monseigneur Paul Etoga. C'est un nom que je vous invite à retenir parce que c'est le tout premier noir de l'Afrique noire française à devenir évêque. Donc c'est lui l'évêque fondateur de notre diocèse. Notre diocèse compte 96 paroisses. Donc mon diocèse, c'est 96 paroisses. Et plus de... Bon, le nombre de chrétiens, les statistiques de cette année, on ne les a pas encore terminées parce que l'année pastorale est encore en cours. Donc, je me réserve de vous donner les chiffres. Mais sinon, toute la population camerounaise, c'est environ 30 millions d'habitants. Et dans ces 30 millions d'habitants, beaucoup vivent dans des zones rurales. Il y a quelques zones urbaines dont la chrétienté va aussi varier selon les milieux. Quand on est en campagne, ce n'est pas les mêmes réalités que quand on est en ville. Mes 6 premières années de sacerdoce, c'était comme curé dans des zones rurales. Donc j'ai fait l'expérience aussi de la vie d'un prêtre en campagne. Et là, j'étais encore tout jeune prêtre. Et je ne vous dis pas que c'était facile, parce que le prêtre se retrouve comme étant la personne ressource de la communauté, que ce soit pour des problèmes économiques, que ce soit pour des problèmes des litiges fonciers. Dans tous les domaines de la société, le prêtre était vraiment un homme mangé au village. Même quand le chef du village et le maire ne sont plus crédibles, toute la population se rabat toujours auprès du prêtre. Voilà pourquoi, pour implémenter quelques orientations que le pape François nous donnait pour préparer le synode sur la synodalité, l'implication des laïcs. Les laïcs ont de la peine encore à accepter qu'ils peuvent prendre ou jouer les rôles de premier plan dans l'Église au Cameroun, parce qu'ils aiment toujours entendre que mon père dit et nous allons exécuter. Mais quand le prêtre vient et il vous dit non, vous faites-moi aussi des propositions, faites-moi des remontées, rien ne bouge. Donc il faut toujours que le prêtre porte pratiquement toute la vie de la paroisse. C'est vrai aussi que dans ce groupe, il y a quelques-uns qui sont un peu plus éclairés aujourd'hui, ceux qui ont fait des études, ceux qui ont travaillé en ville et qui reviennent parfois aussi pour dicter au prêtre ce qu'il doit faire. Donc on a aussi des chrétiens qui sont un peu des chrétiens qui veulent devenir des dictateurs, des laïcs, qui veulent dicter leurs lois et leur façon de voir aux prêtres. Donc ça crée parfois aussi des tensions au sein de la vie paroissiale. On a une église essentiellement jeune. Et les jeunes, vous connaissez leurs problèmes, l'emploi, le chômage, la santé, l'avenir qui est toujours indécis, l'angoisse. Et l'église doit faire face à cela. Et nous avons des rivaux, notamment les nouvelles églises réveillées, qui leur promettent vraiment un avenir meilleur et à l'immédiat. Vous comprenez que ce langage un peu flatteur de la part de ces nouveaux mouvements religieux attire de plus en plus les jeunes qui sont tentés parfois de vider les rangs de l'Église catholique pour aller là où on leur promet un bonheur immédiat et rapide. Voilà un peu quelques aspects que je pouvais ajouter. L'Église, comme dans beaucoup d'autres pays aussi africains et dans les Caraïbes, fait face au problème de la pauvreté économique. La pauvreté économique fait en sorte que beaucoup essayent encore de croire parce qu'ils se disent que le miracle pourra venir de Dieu. Donc, ils sont nombreux aussi dans l'Église en se disant nous allons encore nous vouer à qui si ce n'est le Seigneur. Les hommes politiques ne sont plus crédibles et nous ne pouvons que abandonner notre sort entre les mains de Dieu. Même dans l'Église, la condition de vie matérielle des prêtres, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les évêques, mais on n'a jamais eu de solution. En 17 ans où je chemine un peu avec les évêques, même au sein de la conférence épiscopale nationale, le condition de vie matérielle des prêtres laisse encore à désirer. Il n'y a pas de sécurité sociale. Les prêtres sont abandonnés à eux-mêmes et à la magnanimité du peuple de Dieu qui essaie tant bien que mal de s'occuper de leurs prêtres. Et enfin, l'Église au Cameroun croit encore, ou le peuple de Dieu croit encore, que la véritable richesse, c'est la richesse humaine. On ne met pas tellement notre cœur dans les richesses matérielles, mais on dit, il y a un dicton chez nous qui dit « Mori en akuma ». Mori en akuma, mot à mot, ça signifie « c'est l'homme qui est la richesse ». Donc toutes les richesses qu'on veut produire, si on ne met pas l'être humain au centre de ces richesses, dans notre mentalité camerounaise, on trouvera que c'est de la fausse richesse. Ça ne sert à rien d'amasser si ça ne peut pas venir au secours des êtres humains. Donc les familles préfèrent même faire beaucoup d'enfants en se disant chaque enfant, voilà autant de richesses, autant d'enfants, autant de richesses. Donc je peux m'arrêter là et je remercie une fois de plus encore tous les panélistes qui sont passés avant moi parce qu'ils ont vraiment bien préparé le terrain. Merci.
C'est avec ce témoignage de l'abbé Janvier Owona pour le Cameroun que s'achèvent ces témoignages missionnaires enregistrés en l'église d'Arkang le 25 août 2023 lors d'une soirée proposée par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia. Et nous nous quittons avec ce chant enregistré également à Arkang le 25 août dernier, un chant interprété par la chorale Diaraiki d'Arbonne. Semaine missionnaire mondiale du 15 au 22 octobre. Ô Seigneur Jésus, comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes tentés par le découragement. Viens nous rejoindre et marcher avec nous. Sèche nos larmes, réchauffe nos cœurs, relève ceux qui sont affligés, guéris les blessés, soulage les malades, réconforte les foyers. Donne-nous la grâce d'une plus grande foi en ton Eucharistie. Que nous puissions sentir ton amour immense, ardent, et que nos cœurs devenus brûlants nous poussent sur les chemins, par toute la terre, proclamer ta bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, il est vivant, nous l'avons vu et nous vous l'annonçons. Amen.